l'histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, France temps favorable, chapitre 34e, une séance au Louvre pour l'union de la vérité et de la catholicité, été 1534. L'affaire du Wurtemberg étant terminée, du Bellay ne pensa plus qu'à son grand dessein, c'est-à-dire la réformation telle que l'entendait la reine de Navarre, la combinaison de la catholicité et de la vérité par l'union de la France et de l'Allemagne. Il n'était pas seul à entretenir ses pensées. Roussel, Bucer, beaucoup d'autres chrétiens évangéliques se demandaient avec anxiété si le grand succès remporté en Allemagne ne déciderait pas la réformation de la France. Les communications se multipliaient entre les deux pays. Des Français et des Allemands passaient et repassaient le Rhin. Dans le mois de juillet 1534, la reine de Navarre était dans l'un des appartements de son palais. Devant elle était un jeune homme, modeste et intimidé, et elle tenait à la main une lettre qu'elle semblait lire avec le plus vif intérêt. Le jeune homme était un Français, natif de Nîmes, nommé Claude Baduel. Il arrivait de Wittemberg où il avait trouvé, au pied de Mélenchon et de Luther, la connaissance du Sauveur. Ce n'était pas un étudiant ordinaire. Doué de manière réservée, d'un cœur généreux, d'un désintéressement rare, d'une grande fermeté dans la foi, il avait en même temps un esprit distingué. Il parlait latin, non seulement avec pureté, mais avec une grande élégance, et ses discours avaient une abondance pleine d'harmonie. Comme beaucoup d'autres jeunes savants, Baduel, très pauvre, n'avait pas de quoi étudier, et même pas de quoi vivre. Souvent pendant son séjour à Wittemberg, il s'était trouvé dans sa petite chambre réduit à la dernière nécessité. Il avait poussé des soupirs, il avait adressé des prières à ce Père céleste qui nourrit les oiseaux du ciel. Le moment du départ approchant, sa détresse s'était accrue. Comment fera-t-il le voyage ? Que deviendra-t-il en France ? Il s'était demandé avec douleur s'il devrait abandonner les lettres pour se livrer à quelque travail manuel. Tout à coup, il avait formé le dessein de s'adresser à la reine de Navarre, et se rendant vers Mélenchon, « Le malheur de la fortune m'oblige, lui dit-il, à laisser les arts libéraux pour des occupations vulgaires que ma nature et ma volonté repoussent avec une égale énergie. » En vain me suis-je livré avec zèle à l'étude des saintes lettres et de l'éloquence. En vain ai-je avec ardeur désiré d'y faire de nouveaux progrès. Un ennemi cruel, la pauvreté, jette sur moi ses mains barbares et me contraint de renoncer à une vocation qui me ravissait de joie. Cependant, je me suis décidé à faire une dernière et suprême tentative. La reine de Navarre est pour les amis des lettres et des arts une sorte de providence, presque une divinité. Ô maître, donnez-moi une lettre pour elle. » Mélenchon, ému de voir réduit à l'extrémité un jeune homme dont il appréciait la belle intelligence, n'hésita pas à lui accorder sa demande. Il y avait à cette époque moins d'étiquette, de formalisme, et plus de rapprochement entre les amis des lettres et les princes qu'il n'y en a eu dès lors. Le 13 juin 1534, un mois après la bataille de Laufen, le maître de l'Allemagne écrivait à la sœur de François Ier pour introduire auprès d'elle l'écolier. C'est cette lettre que Baduel remettait à la reine et que cette princesse, heureuse d'entrer en rapport direct avec Mélenchon, lisait avec le plus vif intérêt. « Certes, disait l'illustre réformateur, c'est une grande audace pour un homme tel que moi, de basse condition et inconnu de votre Altesse, que d'oser vous recommander un ami. Mais la réputation de votre éminente piété répandue dans toute la terre ne me permet pas de refuser à un homme juste et savant le service qu'il me demande. Les bonnes études ne peuvent être maintenues que par la libéralité des princes. » Mélenchon terminait en disant « Jamais aumône plus royale, plus utile n'aura été faite. L'Église répandue dans tout l'univers place depuis longtemps votre Altesse au nombre de ses reines que le prophète Ésaïe appelle les nourrices du peuple de Dieu, et elle prendra soin de transmettre vos bienfaits à la plus lointaine postérité. » Mais l'étudiant, ce message vivant des réformateurs n'intéressait pas moins Marguerite que la lettre elle-même. Baduel les avait vus, entendus, dans leur maison, dans la rue, dans leur auditoire. « Parlez-moi, dit-elle avec la grâce aimable qui la distinguait, parlez-moi de Mélenchon et de Luther. Dites-moi comment ils enseignent, comment ils vivent, quels sont leurs rapports avec leurs élèves, ce qu'ils pensent de la France. » Marguerite voulait tout savoir. Elle l'interrogeait sur plusieurs points dont la connaissance pouvait être utile au projet qu'elle avait conçu d'accord avec du Bellay. La reine n'oublia pas le jeune homme lui-même. Voyant la beauté de son esprit, la vie de sa foi, l'élévation de son âme, elle se dit que protéger Baduel, c'était préparer un instrument d'élite qui répandrait en France les principes évangéliques. Grâce à ses soins, le recommandé de Mélenchon professa bientôt les lettres à Paris même. Plus tard, comme on fondait à Nîmes un collège des arts, le jeune docteur résolut de sacrifier la place avantageuse qu'il avait dans la capitale pour se consacrer à la ville qu'il avait vue naître. La reine le recommanda au consul de Nîmes comme recteur de leur nouvelle institution. « Je l'ai entretenu aux études, leur dit-elle. Mais la persécution ne permit pas à Baduel de servir la France jusqu'à la fin. Il fut obligé de se réfugier à Genève et y devint professeur dans l'académie fondée par Calvin. » Les communications du jeune Nîmois affermirent Marguerite, le roi et du Bellay dans leurs desseins, et François Ier résolut d'envoyer au-delà du Rhin un homme de confiance chargé de demander au docteur de la Réformation un plan sur les moyens les plus propres à fonder en Europe une catholicité évangélique. Ce ne fut point Baduel que du Bellay indiqua pour cette mission. Il était trop jeune. Le diplomate jeta les yeux sur un docteur en médecine, Ulrich Schelius, né à Augsbourg, qui résidait alors à Strasbourg, grand ami de Sturm et de Bucer, et employé plus d'une fois par le roi de France dans diverses négociations. Intelligent, actif, animé comme Bucer du double désir de réformer et pourtant d'unir la chrétienté, Schelius était très propre à cette œuvre. Allemand et par conséquent connaissant parfaitement l'Allemagne, il avait toute la promptitude du français. Et la circonstance même qu'il n'était pas d'un rang élevé le rendait plus propre encore à engager des négociations qui devaient être poursuivies dans le silence. Il partit de Strasbourg et arriva en juillet 1534 à Wittenberg. Mélenchon était alors fort agité. Les divisions qui séparaient le catholicisme et la réforme, les querelles entre les luthériens et les zwingliens, le remplissaient d'angoisse. Il se dérobait souvent à cette foule de tout âge, de toutes conditions, de tout pays, qui venait chaque jour heurter à sa porte dans le désir de le voir. La pieuse Catherine avait le cœur brisé en voyant la tristesse de son époux, et les enfants même pouvaient à peine le distraire par leur gracieux sourire. L'avenir l'épouvantait. « De quel temps ne sommes-nous pas menacés, s'écria-t-il, s'il n'y a personne qui porte remède aux discordes actuelles. Nous marchons vers notre ruine. » On aura recours aux armes et l'État et l'Église y périront. Schelius, arrivé à Wittenberg, se rendit aussitôt chez Mélenchon. Le roi François Ier, lui dit-il, veut la vérité et l'unité. Dans presque tous les articles, il est d'accord avec vous et approuve votre livre des lieux communs. Je suis chargé de vous demander un plan pour mettre fin aux discussions religieuses qui troublent la chrétienté. Et je puis vous donner l'assurance que le roi des Français fait et fera tout auprès du pape pour procurer la concorde et la paix. Rien n'était plus propre à captiver Mélenchon. À cette époque, les modérés n'avaient pas encore renoncé à maintenir l'unité extérieure. Ils désiraient conserver la catholicité. Mélenchon même ne voyait pas d'autre salut pour la chrétienté divisée et agitée. Aussi, jamais message n'était arrivé plus à propos. Schelius était pour lui comme un ange venu du ciel. Un éclair vint illuminer le front alors nuageux du grand docteur. Il se rendit chez Luther, il parla avec lui et ses autres amis de la démarche du roi de France. « Si des hommes de bien et de science, dit-il, convoqués par quelques monarques, confèrent librement et amicalement ensemble, il nous sera, croyez-moi, facile de nous entendre. » Les ignorants ne comprennent rien à la chose, et ils font le mal beaucoup plus gros qu'il n'est. Mélenchon croyait pouvoir mettre d'accord catholiques et protestants. Il ne faut pas s'en étonner. de nos jours encore, des hommes fort estimables, quoique peu clairvoyants, entretiennent la même pensée. La vérité était chère aux docteurs de l'Allemagne, mais la concorde, l'unité, la catholicité ne l'étaient pas moins. L'Église, selon Mélenchon et ses amis, devait être universelle, car la rédemption est destinée à tous les hommes et tous en ont besoin. Elle doit donc s'efforcer de réunir tous les enfants d'Adam dans la communion avec Dieu sur la base de Christ, seul Rédempteur. Elle possède une puissance qui peut embraser toute l'humanité et se subordonner toutes les différences. Telles étaient les pensées qui animaient Mélenchon. S'il y avait quelques sacrifices à faire pour maintenir la catholicité de l'Église, il les ferait avec joie. Il reconnaîtrait les évêques, et même le premier des évêques, plutôt que de rompre l'unité. Il ne s'agit pas, disait-il, d'abolir le gouvernement de l'Église. Les principaux d'entre nous désirent vivement que les formes reçues soient autant que possible conservées. L'ami de Luther prit la chose tellement à cœur qu'il se mit lui-même à pérorer du Bellay. « Je vous en supplie, lui dit-il, conjurez les grands monarques d'établir la concorde qui est selon la piété. Les périls qui nous menacent sont tels qu'un homme aussi grand que vous ne doit point faire défaut à la cause de l'État et de l'Église. « Mais que fais-je » s'écrie-t-il. « Qu'est-il besoin de vous presser de marcher, vous qui courez déjà ?» Catholicité et vérité, telle était la devise que portaient gravée sur leurs armes les chevaliers qui, sous les auspices du roi de France, allaient paraître entre les deux camps de Rome et de la Réformation. Mélenchon se mit donc à tracer le plan nouveau de l'Église nouvelle, qui, Dieu aidant, et par l'appui des grands monarques, François Ier, Henri VIII et probablement Charles Quint, devait devenir l'Église des temps modernes. C'était là l'un des travaux les plus importants qui eussent jamais été entrepris par un homme, non seulement les politiques, mais encore tous les cœurs pieux, les cœurs aimants, peut-être faibles, qui, craignant par-dessus tout la controverse, espéraient ardemment le succès de cette tentative héroïque. Les principaux, dit Mélenchon, partageaient ses opinions et encourageaient ses projets. Pourtant, il y avait des âmes simples, profondes, chrétiennes, des esprits décidés à mettre la vérité avant tout, qui voyaient avec inquiétude ces négociations théologico-diplomatiques. Ni Farel, ni Calvin, ni même probablement Luther, n'étaient au nombre de ceux qui se rangeaient autour de la bannière élevée par du Bellay et saisie par Mélenchon. Cet homme pieux, cependant, était loin de vouloir sacrifier la vérité. « Je suis entièrement d'avis, disait-il à Bucer, qu'il ne peut y avoir aucun accord entre nous et l'évêque de Rome. Mais pour satisfaire les hommes de bien qui s'efforcent de mener à bonne fin cette grande affaire, j'exposerai quels devraient être les points essentiels d'un accord. » Mélenchon croyait, et plusieurs chrétiens évangéliques en France et surtout en Allemagne crurent de même, que si l'on établissait d'abord une réforme même incomplète, la force de la vérité amènerait bientôt une réforme entière. Il fit donc son travail et le remit à Chélius. Celui-ci, croyant tenir en main le salut de l'Église, courut à Strasbourg pour communiquer à ses amis le projet de Mélenchon. Arrivé chez Bucer, 17 août, il le trouva écrivant sa réponse à l'axiome catholique de l'évêque d'Avranches, grand ennemi du protestantisme. Bucer posa ses feuilles et prit celle du docteur de Wittenberg, qu'il était impatient de lire. Il les lut et les relut avidement. « Vraiment, dit-il, on n'y trouvera rien dont on puisse se scandaliser si l'on a la moindre idée de ce qu'est le règne de Christ. Mais, ajouta-t-il, une réunion n'est possible, mon cher Chélius, qu'entre ceux qui croient vraiment en Christ. Qu'il y ait une autorité supérieure, à la bonne heure, mais il faut qu'elle soit sainte, afin que chacun puisse lui obéir en bonne conscience. Il faut, pour s'entendre, supprimer toutes les additions et en revenir simplement à la doctrine de l'Écriture et des Pères. » Chélius pria Bucer de lui donner son avis par écrit. Le réformateur rédigea à la hâte un mémoire, approuvé par ses collègues, et le remit le 27 août à son ami. L'agent de François Ier avait fixé un jour pour son départ, mais au dernier moment il s'arrêta et resta encore 24 heures à Strasbourg. Il y avait là un autre docteur, homme doux, pieux et ferme, ancien ami de Zwingli, Hédion, auquel Chélius demanda aussi son avis. Puis, tenant en main les notes des trois docteurs, il partit sans autre délai pour Paris, convaincu que la catholicité et la vérité allaient être sauvées. Arrivé dans la capitale, Chélius remit ses papiers à Guillaume du Bellay, qui les soumit aussitôt à François Ier. Celui-ci ordonna que l'évêque de Paris et quelques-uns des nobles, des lettrés et des ecclésiastiques qui désiraient une église une mais renouvelée, reçussent communication de ces documents. L'arrivée de cet ultimatum de la Réformation était un événement d'une haute importance. Aussi les notes des trois docteurs furent-elles étudiées avec soin au Louvre, à l'évêché et dans d'autres maisons de la capitale. Peut-être l'histoire a-t-elle eu tort de ne pas s'en occuper davantage. Trois des réformateurs, l'Angleterre, François Ier, quelques-uns des hommes les plus marquants de l'époque, demandaient une seule église catholique, mais réformée. Une grande unité évangélique semblait sur le point de se réaliser. N'exposerons-nous pas avec quelques détails une proposition d'un si haut intérêt? Il est, nous le savons, des esprits qui veulent toujours des faits et des émotions sans s'occuper jamais des principes et des doctrines. Mais les sages, au contraire, savent que ce sont les idées qui remuent le monde, et quelles que soient les objections des esprits curieux, l'histoire doit s'acquitter de sa tâche et donner aux doctrines la place qui leur appartient. Il se tint alors au Louvre des séances d'une nature fort extraordinaire et dont, selon quelques-uns, dépendait l'avenir de la chrétienté. Les avis de Mélenchon, de Bucer, de Hédion, demandés par le roi, apportés par Chélius, remis au monarque par du Bellay, étaient dans le cabinet de Sa Majesté. Les murailles du Louvre, dans le sein desquelles s'étalaient des mœurs si légères, et qui devaient être témoins de tant de crimes, entendaient exposer les vérités saintes où se trouve la vie éternelle. Autour de la table sur laquelle ces pièces reposaient, il y avait sans doute des politiques qui n'avaient en vue, dans cet examen, que des avantages temporels, et François était à leur tête. Mais il y avait aussi des âmes sérieuses qui désiraient à la fois pour l'Église nouvelle réforme et catholicité. Nous laisserons parler les réformateurs. Ce n'est pas eux en personne, qu'on le comprenne bien, qui se trouvent alors devant le roi de France. Ce sont les écrits qu'il leur a demandés et qui étaient lus probablement par l'un des frères du Bellay. Mais pour abréger, nous désignerons ces écrits par le nom de leurs auteurs, puisque ce sont ces auteurs mêmes qui parlent et non pas nous. François Ier, désireux à la fois d'émanciper la France de la subordination à la papauté et de donner un corps en Europe à un grand parti moderne, capable de vaincre et de déjouer l'Autriche, écoutait avec bienveillance Mélenchon et ses amis. Toutefois, il trouvait les paroles des réformateurs un peu plus vives et plus hérétiques qu'il ne l'avait pensé. Quelques-uns de ceux qui l'entouraient étaient satisfaits. D'autres étaient étonnés. D'autres encore étaient scandalisés. Ce n'était pas sans cause. Mettre le modéré Mélenchon avec le pacifique évêque de Paris à la bonne heure. Mais prétendre réunir l'inflexible Luther et le fougueux Béda, le pieux électeur et le libertin François Ier, quelle tentative étrange. Toutefois, écoutons, car ces personnages ont pris place sur leur fauteuil et l'examen commence. Bucer. Il ne peut y avoir de concorde dans l'Église qu'entre ceux qui sont vraiment de l'Église. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. On ne peut unir Dieu et le monde. Or, que sont la plupart des évêques et des prêtres? Ô douleur! Cet exorde parut au roi un peu fier. Il se dit que Bucer avait sans doute voulu mettre dès le commencement sa fidélité à couvert. Peut-être ses collègues seront-ils un peu plus conciliants. Mélenchon. La doctrine catholique, dit-on, n'a que des taches légères. Et nous et les nôtres, nous avons fait beaucoup de bruit sans cause. C'est une erreur. Que le pontife et les grands monarques de la chrétienté ne se cachent pas des maladies de l'Église. Ils doivent, au contraire, reconnaître que ces taches prétendues légères anéantissent les doctrines essentielles de la foi et font tomber les hommes dans l'idolâtrie et dans des péchés manifestes. Bucer. Si l'on veut établir la concorde chrétienne, qu'on s'adresse à ceux qui croient vraiment en Christ. Ceux qui n'écoutent pas la parole ne peuvent expliquer la parole. Que d'erreurs ont été introduites par des prêtres impies. S'adressera-t-on pour les corriger à d'autres prêtres qui peut-être les dépassent encore dans le mal? Vraiment, les pacifiques Bucer et Mélenchon parlent aussi fièrement que Luther et Farel. Le roi et ses conseillers commençaient à s'alarmer quand des paroles plus conciliatrices vinrent leur rendre quelque espoir. Bucer. Tout ce qu'on peut céder en maintenant la foi et l'amour de Dieu, nous le céderons. Toute pratique salutaire observée par les anciens, nous la rétablirons. Nous ne voulons point renverser tout ce qui existe, et nous savons très bien que l'Église ne peut être sans tâche ici-bas. Le contentement du roi et de ses conseillers s'accrut quand on en vint au gouvernement de l'Église. Il faut un ordre dans l'Église, disaient les protestants. Il faut un ministère de la parole, une inspection des conducteurs des troupeaux, afin de maintenir la discipline et la paix. Le culte, les temps destinés à l'adoration commune, les lieux où l'Église s'assemble, les actes sacrés, les secours temporels nécessaires à l'entretien du ministère, le soin des pauvres, tout cela nécessite une administration attentive et fidèle. Ces principes furent exprimés par les réformateurs. Le docteur de Strasbourg insistait le plus sur ce point. Bucer. Le royaume de Christ ne doit pas être sans un gouvernement. Nulle part l'ordre ne doit être plus ferme, l'obéissance plus complète et le pouvoir plus vénéré. François Ier et ses conseillers entendaient avec plaisir ces déclarations. Les uns leur avaient dit que la prétendue Église des protestants était composée d'atomes qui n'avaient point entre eux de cohésion. D'autres assuraient que la seule supériorité qu'on voulût y reconnaître était celle de certains prophètes théocratiques semblables à Thomas Münster et ses pareils. François Ier apprenait donc avec plaisir que tout en admettant un sacerdoce universel en vertu duquel tout croyant s'approchait de Dieu par ses prières, le protestantisme maintenait un ministère évangélique spécial. Mais quel était ce ministère, ce gouvernement? Voilà ce que le roi et ses conseillers désiraient savoir. Les théologiens médiateurs faisaient ici, selon nous, fausse route. Les vœux du roi allaient être presque comblés. Mélenchon. Comme un évêque préside sur plusieurs églises, nul ne peut trouver mauvais qu'un pontife préside à Rome sur plusieurs évêques. Il faut à l'Église des conducteurs, qui examinent ceux qui sont appelés au ministère, qui juge les causes ecclésiastiques et qui surveille la doctrine des ministres. S'il n'y avait pas de tels évêques, il faudrait les créer. Un pontife unique peut même servir à maintenir l'accord de la foi entre les diverses nations de la chrétienté. François Ier était ravi. Mais les évangéliques les plus décidés regardaient cette idée d'un pape évangélique comme d'un rêve qu'il fallait reléguer dans le pays d'utopie décrit par Thomas Morus. Une déclaration accessoire, d'une autre nature, devait encore plus réjouir François Ier. Mélenchon. Quant à ce que le pontife romain prétend transporter les royaumes d'un prince à l'autre, cela ne regarde ni l'Évangile, ni l'Église, et c'est au roi à combattre cette injuste prétention. Maintenant ces concessions étant faites, les réformateurs allaient faire entendre la grande voix de la réformation. Bucer. Le premier des dogmes, c'est la justification des pécheurs. Mélenchon. La rémission des péchés doit être accompagnée d'un changement de vie. Mais cette rémission ne nous est pas donnée à cause de cette vie nouvelle. Elle ne nous vient que par miséricorde et nous est donnée uniquement à cause du Christ. Bucer. Ainsi donc, plus de ces mérites attribués aux pratiques et aux prières des moines et des prêtres, plus de cette vaine confiance dans nos propres œuvres. Que la grâce ne soit plus obscurcie et la justice de Christ méchamment rabaissée. C'est à cause du sang de son unique Fils que Dieu nous remet nos péchés. François Ier et les siens trouvaient cela orthodoxe. Les scolastiques même, disaient-ils, ont ainsi parlé dans quelques-uns de leurs livres. Ils ne firent aucune opposition au sentiment des réformateurs sur la justification par la foi. Mais un point les inquiétait. Que diront-ils de la messe, pensaient-ils? Ce sujet capital ne fut pas oublié. Bucer. Quoi? Assister chaque jour à la messe, sans repentance, sans piété, sans même penser au mystère qui s'y trouve, suffirait pour obtenir de Dieu toutes sortes de grâces? Non. Quand on célèbre le sacrement du corps et du sang du Seigneur, Il faut qu'il y ait une communion vivante entre Christ et les membres vivants de Jésus-Christ. Mélenchon. La messe est le seul nœud qui nous soit impossible de résoudre, car ici sont d'horribles abus inventés pour le gain des moines. Il faut interdire les cultes impies et en établir de conformes à la vérité. Qu'on garde la messe, disait François Ier, mais qu'on abolisse les légendes ineptes, absurdes et ridicules. Les Français attendaient les réformateurs à la doctrine des sacrements. C'était en effet le point embarrassant à cause des opinions différentes des divers docteurs. Les ennemis de la Réformation disaient beaucoup en France que les sacrements n'étaient pour les protestants que de simples cérémonies par lesquelles les chrétiens montrent qu'ils appartiennent à l'Église. Non, disaient les docteurs, ces cérémonies extérieures sont des moyens par lesquels la grâce opère dans l'intérieur de nos âmes. Seulement cette opération ne vient pas des dispositions du prêtre qui administre le sacrement, mais de la foi de celui qui le reçoit. Ici se présenta la grande question, Christ est-il ou non présent dans la communion? Bucer et ses amis se tirèrent prudemment de ce pas difficile. Bucer. Le corps de Christ est reçu dans la main des communiants et mangé avec leur bouche, disent les uns. Le corps du Christ est discerné par l'âme du fidèle et est mangé par la foi, disent les autres. Il y a un moyen de mettre fin à cette dispute, c'est de reconnaître simplement que quel que soit le mode de la manducation, il y a dans la scène une véritable présence de Christ. Peu à peu les réformateurs s'animaient. Mélenchon. Il faut enseigner au peuple que les saints ne sont pas plus cléments que Jésus-Christ et qu'il ne faut pas leur transporter la confiance qui est due à Jésus-Christ seul. Il faut que les monastères soient changés en écoles. Il faut que le célibat soit aboli, car la plupart des prêtres affichent une turpitude manifeste. Bucer. Il faut une constitution de l'Église où l'on décide tout par l'Écriture. Et pour la préparer, il faut une conférence d'hommes savants et pieux. Édion. Il faut que cette assemblée se compose non pas de théologiens seulement, mais aussi de laïcs. Et surtout, il faut que l'on ne fasse aucun pas en avant aussi longtemps que le pape et les évêques persistent dans leurs erreurs et même les défendent par la force. Les réformateurs, en rédigeant ces articles, avaient conçu peu à peu quelques espérances. Il est possible, peut-être probable, que l'unité se rétablisse. Émus à cette pensée, ils élevaient les yeux vers le bras puissant dont ils attendaient le secours. Mélenchon. Oh, que notre Seigneur Jésus-Christ regarde du ciel, et qu'il amène lui-même cette Église pour laquelle il a souffert à une pieuse et perpétuelle union qui fasse au loin resplendir sa gloire. François Ier et ses conseillers étaient généralement satisfaits, mais les docteurs de Rome regardaient d'un œil inquiet ces négociations, selon eux détestables. Il y avait de l'agitation à la Sorbonne et même au Louvre. Tous les chefs du parti romain qui avaient voix à la cour faisaient entendre des représentations respectueuses. Le cardinal de Tournon y joignait des remontrances. Du Bellay tenait ferme, mais il n'en était pas ainsi de François Ier. Il hésitait, il chancelait. Un événement vint lui donner une nouvelle impulsion et légitimer à ses yeux les réformes que lui demandait son ministère.